Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour Culture Média, au menu tous les médias et toutes les formes de culture. Nos indispensables du jour, tiens, on va écarquiller les yeux avec trois chaînes YouTube autour de l'art et on va se déboucher les oreilles avec un best-of des White Stripes. Nous sommes ensemble pour 2 heures en direct et vous pourrez évidemment podcaster l'émission ou la partie qui vous manque sur europe1.fr. Notre info média sera double. D'abord Paris Match qui dévoile ce matin une nouvelle maquette. Nous serons avec son inspirateur Hervé Gattegno, le directeur général de la rédaction. Et puis un documentaire qui place en pleine lumière l'une des fonctions les plus secrètes de la Ve République, le secrétaire général de l'Élysée. Aucun texte ne prévoit son existence, aucun document ne régit ses attributions. Révélation avec Vincent Martini, co-auteur de ce doc, l'homme du président. Ensuite, nos invités, Pierre Louette, PDG du groupe Les Échos, le Parisien, à la tête de l'Alliance de la presse d'information générale. J'en parle car il dirige les négociations sur les droits d'auteur avec les GAFA. Dans le même temps, il publie un essai très informé et parfois terrifiant, des géants et des hommes pour en finir avec l'emprise des GAFA sur nos vies. Tout un programme. Enfin, Quadmérade pour Ami, la pièce d'Amanda Asterz et David Fokinos qui questionne l'amitié. Il en est le metteur en scène, mais aussi l'un des comédiens. La pièce n'était restée que quelques jours à l'affiche à cause du confinement. Eh bien, elle revient lundi en direct à la télé. Il y aura évidemment son portrait inattendu avec Hélène Manarino. Nous sommes donc ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour Philippe Vandel.
Avec
bonjour
sa petite
tous.
Bouteille, bonjour Antoine Janton.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Antoine, au sommaire de votre journal des médias.
Un débat très attendu, un livre de souvenirs et l'arrivée d'une série américaine sur la plateforme Salto.
Mais d'abord, les audiences télé avec vous Louise, qu'ont regardé les Français hier soir?
C'est M6 qui doit se réjouir parce que c'est un record historique de lancement pour Top Chef. Alors TF1 reste leader quand même avec Doc, mais de peu, je vais vous dire les chiffres, M6 c'est 3 785 000 qui est donc deux. TF1 3 870 000, 17,6% de part d'audience. Et ce qui est intéressant, c'est la cible des deux chaînes qui les intéressent,
les FRDA
de moins de 50, parce que TF1 souffre cette semaine. C'est Top Chef qui rafle la mise, 30% sur les FRDA. TF1 25,5 seulement, France 2 troisième avec une rediffusion, 3 600 000 téléspectateurs, 12%.
FRDA, femme responsable des achats de moins de 50
voilà,
ans, c'est elle qui choisit la marque de biscuits qu'on va acheter et comme on dit, on leur a porté chance. Et Bertrand Chameroy, petite info, va tout à l'heure débriefer Top Chef d'hier soir, Bertrand Chameroy vers 10h10.
Culture Média.
On commence ce journal des médias, Antoine, avec un débat très attendu ce soir sur France 2.
Gérald Darmanin face à Marine Le Pen, ce sera dans l'émission politique Vous avez la parole, présentée par Léa Salamé et par Thomas Soto. Un débat autour du projet de loi contre le séparatisme, défendu en particulier par le ministre de l'Intérieur. C'est lui qui est l'invité principal de l'émission ce soir. Débat attendu donc, et ce qui n'est pas toujours le cas, facile à mettre en place. C'est ce que vous a dit Louise, la co-rédactrice en chef de l'émission, Nathalie Saint-Cric.
Dieu sait si on s'arrache de nombreux cheveux pour monter des débats, et c'est extrêmement compliqué en général. Ce débat a été assez facile, d'abord parce que il n'y a pas eu de discussion du côté de Gérald Darmanin, c'est tombé comme une évidence. Je crois qu'il n'a pas peur de débattre, et si je dis ça, c'est parce qu'ils ne sont pas tous comme ça. Et du côté de Marine Le Pen, dans un premier temps, il y a quelques mois, on lui avait proposé d'affronter Jean Castex, qu'elle n'avait pas souhaité, et il a suffi de lui rappeler qu'elle m'avait dit « je trouve qu'avec Darmanin, au moment de la loi, ça serait intéressant ». Donc c'est pour une fois quelque chose qui a été rondement mené.
La chaîne promet de donner du temps pour ce débat, 40 minutes environ, et pour une fois assez tôt dans l'émission, vers 21h30. La première demi-heure sera consacrée à l'interview de Gérald Darmanin. En revanche, il n'y aura pas de Français issus de la société civile présents pour poser des questions. Vous avez la parole, c'est ce soir à 21h sur France 2 et sur C8, un peu plus tard, vers 21h20. Cyril Hanouna recevra, tiens, Jean-Luc Mélenchon, ce sera dans Balance ton poste.
Balance ton poste, nouvel horaire pour la diffusion de la Ligue 1.
Il y aura désormais un match le samedi à 13h, c'est une première. La Ligue de football professionnel a accepté la demande de Canal+. Le groupe, qui a récupéré les droits de tous les matchs de Ligue 1 jusqu'à la fin de saison, vous le savez peut-être, ne voulait plus diffuser de rencontres de football le samedi à 21h. Un créneau désormais réservé au rugby, à un match donc du top 14, le championnat de France. Ce nouveau dispositif entrera en vigueur dans 10 jours, le 20 février, Saint-Étienne-Reims, à 13h donc. Ce sera sur Canal+ Sport.
Un grand nom, le journaliste Étienne Moujotte, qui vient de sortir son autobiographie.
Pouvoir, c'est son titre. Pouvoir au pluriel. officiel, 50 ans au cœur des médias et une carrière impressionnante. On le connaît surtout, Étienne Moujotte, pour ses fonctions de dirigeant de TF1 pendant 20 ans, mais il a commencé dans la presse écrite à Paris-Normandie avant de travailler à la télévision et à la radio, à Europe 1 notamment. En 1975, il en était le directeur de l'information. Il intervient alors sur l'antenne à l'occasion d'un braquage avec prise d'otage à Paris. Il explique alors la position d'Europe 1 sur le traitement journalistique qui est fait de cet événement.
La direction d'Europe 1, la direction de l'information, a pris la décision de ne donner aucun détail sur ce qui se passe dans cette banque et autour de cette banque. Nos reporters sont sur place et ils vous diront ce qui s'est passé lorsque tous les otages seront libérés sains et saufs, nous l'espérons en tout cas. Il est, je crois, de notre responsabilité de ne rien taire de ce que nous savons, mais c'est aussi notre responsabilité que de ne pas mettre en danger la vie d'otages innocents. Voilà pourquoi nous vous avons donné cette information et pourquoi aussi nous ne la commenterons qu'après la libération de tous les otages.
Voilà le débat déontologique qui traverse l'histoire de la profession. Merci aux documentalistes d'Europe 1 pour cette archive. Louise, je me tourne vers vous. C'est la première fois qu'Étienne Moujotte se confie dans un livre. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a de la matière.
Oui, c'est truffé d'anecdotes assez croustillantes, hein, notamment sur ses 20 ans passés à TF1 comme numéro 2 de la chaîne. Tous les animateurs ou presque ont le droit à leur passage dans le livre. Nico Saliegas, le bosseur, Michel Drucker, obsédé par le lien avec son public. Benjamin Castaldi, lui, est drôle et malin. Vincent Lagaffe, incontrôlable, et ça continue comme ça. Il raconte aussi l'arrivée de Jean-Pierre Pernaut au JT de 13h, ou encore comment Koh-Lanta a failli ne jamais être diffusé. Et puis sur la Star Academy, le casting compliqué de la future gagnante, Jennifer. Il y a débat entre les deux candidates. Pascal Nègre tranche, il l'a choisie ainsi. Elle chante faux, mais elle bouge bien. Et au-delà de ces anecdotes, ce qui est intéressant, c'est qu'à travers son histoire, c'est finalement celle des médias qu'il raconte, celle des politiques aussi, hein, d'où le titre du livre « Pouvoir au pluriel ». À propos des médias, il écrit « J'appartiens à la génération qui a été au cœur de l'incroyable développement de l'audiovisuel ». Il dresse ainsi la liste, elle est longue. La modernisation de la radio, la libéralisation de la télévision après 68, le développement des chaînes commerciales avec TF1, celui des chaînes Tout Info avec LCI, le défi de la numérisation de la presse écrite, le développement des réseaux sociaux, 50 ans de carrière dans un même livre.
Et des bons coups, donc l'arrivée de Jean-Pierre Pernaut au 13h finalement, et puis Koh-Lanta maintenu sur l'antenne de TF1.
Grand succès.
Heureusement que TF1 n'est pas passé à côté de cette émission. Pouvoir au pluriel donc d'Étienne Moujotte, c'est aux éditions Calman Lévy.
Colère et mobilisation de nombreux médias en Pologne.
Ils sont une cinquantaine, journaux, radios, chaînes de télévision, sites internet, à ne pas avoir publié d'articles ou de reportages hier. Ils voulaient ainsi protester contre un projet du gouvernement conservateur, imposer un impôt sur la publicité, la principale source de revenus de ces médias, une nouvelle taxe qui menace selon eux leur existence même, celle de médias indépendants. Seule la télévision publique, devenue un organe de propagande en Pologne, n'a pas participé à cette action.
La Pologne qui dégringole au classement de RSF, je crois qu'ils sont 62e, maintenant ils ont perdu 3 points en un an.
J'ai vu ça. Une série événement qui arrive sur Salto.
C'est Clarisse, série américaine très attendue, la suite du silence des agneaux. L'action se déroule en 1993, un an après les événements du film, avec Jodie Foster et Anthony Hopkins, vous l'avez peut-être vu, et ça a dû vous marquer. Elle sera donc disponible sur Salto dès demain, 24 heures après sa diffusion sur CBS aux États-Unis. C'est le groupe TF1 qui met à disposition cette série à la plateforme, sur la plateforme, une plateforme qui l'édite avec France Télévisions et M6. C'est TF1 qui a acheté cette série pour la France. Il l'avait annoncé d'ailleurs, le groupe, ici même.
Mais
l'une
oui,
de ses dirigeantes était venue nous voir dans Culture Média, c'était il y a 2 semaines.
Toutes ces infos, vous pouvez les retrouver avec d'autres dans la newsletter Média d'Europe 1. C'est gratuit, inscription sur europe1.fr, ça marche même depuis la Pologne. Merci beaucoup Louise Bernard, merci Antoine Janton. À tout à l'heure Louise, c'est vrai, vous revenez pour les indispensables. Et Antoine, je vous dis à demain pour un nouveau journal des médias. Dans un instant, ce sera notre info média du jour double. On va d'abord parler d'une transformation, celle de Paris Match, le magazine qui propose une nouvelle maquette dès aujourd'hui. On en parle avec son directeur de la rédaction, Hervé Gattegno. À tout de suite. Les journaux ne cessent d'évoluer pour coller à leur époque et Paris Match, évidemment, n'échappe pas à la règle. Le magazine propose une nouvelle maquette à partir d'aujourd'hui. À quoi ressemble-t-elle? Quels sont les principaux changements? Pour répondre à ces questions, notre premier invité dans Culture Média, bonjour Hervé Gattegno.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de la rédaction de Paris Match, journal cousin d'Europe 1. On appartient au même groupe, vous êtes même dans le même immeuble. On va détailler cette nouvelle maquette avec vous, mais avant cela, quelques mots sur l'esprit de cette évolution. Et pour bien la comprendre, il suffit d'ouvrir le journal, page 32-33, il y a une double page avec une grande photo, celle d'une vague qui se brise sur une digue en Angleterre. Le choc des photos, c'est écrit en haut à gauche. Et en face, en haut à droite, il est écrit également le poids des mots. En l'occurrence, ceux de votre édito, je vous cite, « Paris Match ne change pas, il bouge. S'il se transforme, c'est pour rester lui-même, fidèle à ses valeurs. » Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Hervé Gattegno?
Mais d'abord, vous savez que c'est la première fois qu'on écrit le slogan historique de Paris Match, le poids des mots, le choc des photos, dans le journal. C'est un slogan dont tous les lecteurs se souviennent, mais qui n'avait jamais été imprimé en tant que tel.
J'ignorais.
Dans le journal. Donc c'est la première fois. Et au fond, pour nous, affirmer ce slogan, le revendiquer, c'est à la fois revendiquer l'ADN de Paris Match, c'est-à-dire cette juxtaposition, cette addition de la qualité photographique et de la qualité du texte, et c'est aussi afficher une volonté de nous moderniser, de nous réaffirmer dans ce que nous sommes, c'est-à-dire des journalistes qui veulent montrer les choses, aider les gens non seulement à voir, mais à savoir, comme disaient les grands anciens de Paris Match. Donc il y a cette volonté de modernisation parce que, vous le savez dans cette émission, il y a une concurrence foisonnante aujourd'hui. Les magazines ne se concurrencent plus seulement entre eux, sont concurrencés par tous les autres médias. Et s'agissant d'un magazine visuel comme Paris Match, les chaînes d'info continues sont de grands concurrents pour nous, et évidemment les réseaux sociaux. Et donc pour tout ça, il faut se moderniser, il faut bouger.
En général, quand on change la maquette, on monte le prix, en l'occurrence ?
Non, pas du tout, on n'augmente pas le prix.
3,20 euros, maquette plus moderne, plus élégante. Vous avez changé la police de caractère, c'est à la marge. Si je montre à l'image sur europe1.fr, vous voyez les deux. Une, la dernière une et l'avant-dernière. On voit que vous avez un tout petit peu changé la une. La nouvelle une, c'est celle avec Julien Clerc. Vous avez modifié la mise en page à l'intérieur. Nouvelle maquette plus aérée. Il y a plus de blanc autour des textes. C'est-à-dire qu'il y a moins de textes ou est-ce que vous avez écrit plus petit ?
Non, c'est ni l'un ni l'autre. En réalité, tous les lecteurs s'en apercevront. Le caractère que nous avons choisi est plus lisible. La maquette est plus aérée. Il y a plus de blanc. Il y a la même quantité de textes. Et je dirais même que depuis un an, beaucoup de lecteurs s'en sont aperçus. Nous avons renforcé le texte dans le magazine, donc nous publions des enquêtes ou des reportages sensiblement plus longs qu'auparavant, quitte parfois à retrancher un sujet. C'est-à-dire que là où il y avait en moyenne 10 enquêtes ou reportages dans ce que nous appelons le cœur du magazine, la partie centrale, aujourd'hui parfois il y en a 8, parfois 9, parce que les textes sont plus longs. Faire une nouvelle maquette, c'est aussi pour nous afficher cette ambition et je dirais celle d'une légère montée en gamme par image. Reste tel qu'il est, vous m'avez cité gentiment, Paris Match reste un magazine grand public de qualité. C'est cette équation-là à laquelle nous tenons, mais néanmoins une légère montée en gamme, donc avec plus de lisibilité et, nous l'espérons, plus d'élégance dans cette nouvelle maquette.
Ouais, on va parler du rythme maintenant, le journal évolue également sur ce plan-là, il y a trois grandes parties, la semaine de match, actualité et enfin vivre, clairement annoncé, clairement identifié. Exemple avec la première, la semaine de match, page rouge, avec un grand chiffre 1 au milieu et en blanc, le sommaire de cette partie. Une seule partie donc, là avant où il y en avait trois, qu'est-ce qu'on va y trouver ?
Alors on trouve dans cette grande rubrique qui s'appelle la semaine de match, au fond, la fusion, l'addition de ce qu'étaient les trois rubriques introductives du magazine jusqu'à la semaine dernière, c'est-à-dire la culture, les personnalités, les people comme on dit, et la politique et l'économie. Aujourd'hui, tout cela constitue une seule grande rubrique, donc nous y apportons de la cohérence visuelle et journalistique, et cette grande rubrique, elle constitue en réalité ce qui est le spectre unique de Paris Match. Paris Match est le seul magazine qui existe probablement dans le monde qui traite à la fois l'actualité des people, des familles royales, mais aussi le reportage de guerre, la politique, l'investigation. C'est cette équation unique qui est vraiment l'ADN de Match et c'est ce que nous affichons dans cette rubrique qui constitue désormais le début du magazine.
On va y venir à l'investigation. Autre innovation dans Paris Match d'abord, une nouvelle rubrique, les archives de Match. C'est dans les toutes dernières pages du magazine. Cette semaine, quand la photo entrait dans les prétoires, on voit des photos des grands procès quand c'était autorisé. Gaston Dominici en 54, qui se fait apostropher par son fils, Klaus Barbie en 87. Et à la lecture de ces pages, on se dit, mais comment Match a-t-il pu passer toutes ces années, pardon de ce compliment qui est aussi une critique, comment a-t-il pu tenir toutes ces années sans mettre en valeur ces archives, ce patrimoine unique ?
Alors nous les mettions en valeur, ces archives qui sont en effet uniques au monde aujourd'hui, dans des expositions, de temps en temps dans des publications. Nous faisons beaucoup de hors-série.
Non mais là c'est juste formidable. Pardon de faire ce compliment alors qu'on est du même groupe, on va croire que c'est corporate. Mais moi j'ai tourné ça, j'étais absolument passionné.
Ah oui, mais c'est passionnant et vous savez la visite...
Bon, je vais poser la question différemment. Comment n'avez-vous pas eu l'idée avant?
Ah bah écoutez, moi comme lecteur de Paris Match, c'est une idée que j'avais depuis très longtemps, ouais. Et donc j'ai pu la mettre en œuvre parce que je dirige cette rédaction et parce que beaucoup de gens dans la rédaction ont adhéré à ce projet et je pense que les lecteurs vont y adhérer. C'est en effet une photothèque absolument unique qui va nous permettre, semaine après semaine, de faire résonner des sujets d'actualité à la lumière des incomparables archives de matchs. Je pense que ce sera un grand plaisir et ce sera une grande richesse. Et vous avez parlé des trois piliers du magazine. Celui-ci, les archives de matchs, c'est le quatrième pilier sur lequel repose désormais le journal.
Puisqu'on parle d'archives, avec Gattegno, je vous fais écouter un extrait d'interview. C'était sur Europe 1 en novembre 1994. Roger Théron, à l'époque, c'était lui le directeur de la rédaction de Paris Match. Il parle de la photo que le journal vient de publier en une. Pas n'importe quelle photo, celle de François Mitterrand avec sa fille Mazarine.
Match a traité l'histoire du président parce que nous l'avons trouvée belle et même magnifique. Je veux dire, cet homme qui aime une femme depuis plus de 20 ans, qui a une enfant de 20 ans, qui est elle aussi très belle et qui est en plus, je crois, très intelligente. Le président est tellement sensible à son charme et aux joies de la paternité qu'il a un geste sur la photo vers elle, il met la main sur son épaule. Et si nous n'avions pas eu cette photo d'une tendresse infinie, je crois qu'on n'aurait pas publié le reportage. Je crois que tout est dans cette photo et dans la tendresse d'un père pour une fille.
Joyeux approuvé, Hervé Gattegno.
Oui, c'est émouvant en même temps d'entendre Roger Théron, qui est une légende de la presse parisienne et qui a énormément fait pour ce magazine. Et il a dit des choses très vraies, c'est-à-dire une volonté d'être offensif, de publier des scoops, qui est aussi une des grandes parties de l'ADN de Paris Match, mais aussi une forme de délicatesse, parce que Paris Match essaye toujours de respecter son lectorat et de respecter les personnalités dont il parle.
Un des nombreux scoops de Match, vous allez en sortir d'autres, j'imagine, dans les mois qui viennent. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que vous pouvez pas nous dire? En tout cas, ça reste dans l'ADN de Match que de sortir des scoops.
Ah oui, ô combien. On l'a fait ces derniers mois. On a publié une interview retentissante de Nafissa Toudiallo.
Je m'en souviens, on en avait parlé ici.
Très récemment, une grande enquête sur l'affaire Olivier Duhamel. Donc, bien sûr que nous enquêtons. Notre rédaction considère l'enquête comme un genre journalistique majeur. Et évidemment, je ne vous dirai rien des nombreux scoops que nous allons publier parce que sinon, ce ne serait plus des scoops, cher Philippe.
Pas de journal sans petite polémique. Ça démarre dès ce matin. Parmi les infos que donnait dans ce nouveau numéro, en tout début, il y en a une qui concerne Vanessa Paradis. C'est justement dans les personnalités, Vanessa Paradis remerciée, point d'exclamation. C'est Benjamin Locoge qui écrit l'article et il écrit fin décembre, la chanteuse apprenait que Barclay, sa maison de disques, lui rendait son contrat. Affirmation vigoureusement démentie hier soir par Universal Music, la maison mère de Barclay. Universal Music, je les cite, dément formellement ces allégations extrêmement graves et préjudiciables, dit-elle dans un communiqué. Que répondez-vous ce matin?
Alors nous publions bien entendu le démenti d'Universal. De ce que je crois comprendre, parce que tout ça date d'hier soir, de ce que je crois comprendre, Vanessa Paradis change de label.
Exactement.
Mais à l'intérieur d'Universal, et donc j'ai l'impression qu'Universal a précipité une annonce hier soir de la création d'un nouveau label dans lequel la maison de disques récupère Vanessa Paradis parmi d'autres chanteurs. Notre petite enquête, notre petit article s'appuyait sur plusieurs sources internes et externes, nous prenons acte du démenti d'Universal.
Voilà, le nouveau label, il s'appelle Romance. On y trouvera également Vanessa Paradis, mais Angèle, Juliette Armanet, Jane Birkin, Carla Bruni, Hervé, Bernard Lavillier, Étienne Dao et d'autres. On voit là la force de Match. C'est votre info qui a précipité le communiqué, dites-vous.
J'ai vraiment cette impression, mais maintenant, moi, je ne suis pas à l'intérieur de la maison de disques. En tout cas, la chronologie donne à le penser.
Dernière question, est-ce que ces changements concernent également le site internet de Paris Match?
Alors le site internet va évidemment s'adapter à notre nouvelle ambition visuelle petit à petit. Et puis il y aura beaucoup de projets numériques au cours de cette année pour Paris Match. Beaucoup de déclinaisons, d'initiatives. Nous avons lancé une newsletter quotidienne il y a quelques mois qui marche très bien. Et nous allons en lancer d'autres parce que évidemment Paris Match doit aussi affronter toutes les concurrences sur tous les supports. Et comme vous le savez, le numérique est un enjeu enjeu décisif pour les magazines et pour l'ensemble de la presse écrite.
Merci beaucoup Hervé Gattegno. Paris Match qui bouge, qui évolue. Nouveau numéro, nouvelle maquette en kiosque aujourd'hui avec Julien Clerc et Hélène Grémillon, son épouse, en couverture. Julien Clerc qui sera à votre place demain. Hervé Gattegno, merci d'avoir été avec nous en direct. Dans un instant, notre deuxième info média du jour, focus sur le secrétariat général de l'Élysée, autrement dit l'endroit où se trouve l'homme de confiance du président de la République. Nous en parlons avec Vincent Martini, c'est l'auteur d'un documentaire de France 5, L'homme du président. À tout de suite.
Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Aucun texte ne prévoit son existence, aucun document ne régit ses attributions. Pourtant, il est devenu au fil des ans l'un des rouages les plus importants de la Ve République. Le secrétaire général de l'Élysée est à la fois conseiller, protecteur, sentinelle pour le président, un homme de confiance, d'influence et de pouvoir, présenté parfois comme un vice-président ou comme un premier ministre bis. C'est un poste clé auquel un documentaire s'intéresse pour la première fois. 7 anciens secrétaires généraux ont accepté de parler face à une caméra pour raconter les coulisses de leur travail à l'Élysée. Bonjour Vincent Martini.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de ce documentaire intitulé « L'homme du président », film réalisé par Joseph Bourgard et diffusé dimanche soir sur France 5. D'abord, d'un mot, contrairement à beaucoup de gens qui viennent ici parler de documentaire, vous n'êtes pas journaliste.
Non, je suis professeur de sciences politiques.
Et c'est ce regard qui a conduit à ce documentaire unique, justement, à tous les sens du terme. L'image qu'on a du secrétaire général de l'Élysée, c'est d'abord celle d'un homme qui annonce la composition un peu en pesée du gouvernement sur le perron du palais présidentiel, en lisant sa liste, en essayant de ne pas bafouiller, de ne pas trébucher sur les mots. Mais évidemment, sa fonction ne se résume pas à ceci. Quel est son rôle ?
C'est un rôle tout azimut d'une certaine manière. C'est quelqu'un qui a justement vocation à intervenir sur tous les sujets. Il est le principal conseiller du président de la République, donc il participe à la formation du gouvernement, il participe à toutes les formes de nomination, il traite les médias, c'est-à-dire il rencontre un certain nombre de journalistes, il gère l'équipe du président de la République, contrairement au directeur de cabinet qui d'habitude dans les ministères occupe cette fonction. Là, c'est vraiment le secrétaire général de l'Élysée qui joue ce rôle. Il est aussi l'homme des missions spéciales qui peut, au nom du président, aller discuter avec tel chef d'État ou aller faire un déplacement, comme par exemple Jean-Louis Bianco, pendant la première guerre du Golfe, était chargé de faire un tour des diplomaties du monde arabe pour voir qui serait aux côtés de la France. Voilà, c'est un homme qui a un pouvoir absolument colossal.
Poste essentiel, vous le citez dans le doc, je vais le citer, le général de Gaulle qui disait que le secrétaire général devait être au centre de tout, au courant de tout. Actuellement, qui est le secrétaire général de l'Élysée sous la présidence Macron ?
Alexis Kohler, un homme de l'ombre qu'on ne connaît pas du tout et d'ailleurs qui... fidèle à sa réputation d'homme de l'ombre et parce qu'il était en poste, n'a pas souhaité s'exprimer dans notre documentaire. Et je crois que la force du documentaire, c'est aussi qu'on a réussi à réunir des gens qui n'avaient jamais parlé, qui d'habitude refusent.
7 anciens secrétaires généraux, ça va de Jacques Valls, qui était le dernier secrétaire général sous Valéry Giscard d'Estaing, à Jean-Pierre Jouyet, qui occupait le poste jusqu'à l'arrivée d'Emmanuel Macron, donc sous François Hollande. Et ce que vous relevez et que vous montrez, c'est l'évolution du poste depuis la fin des années 70. Qu'est-ce qui a changé ?
Ce qui a changé, c'est qu'avec la présidentialisation du régime, le pouvoir du président est de plus en plus affirmé. Eh bien, le secrétaire général, qui longtemps a été un haut fonctionnaire, eh bien, de plus en plus devient un conseiller politique. Et ça se voit notamment par le fait que la plupart de ces secrétaires généraux qui, avant François Mitterrand, revenaient dans la haute fonction publique lorsqu'ils avaient conclu leur mission, eh bien là, la majorité d'entre eux va faire de la politique. C'est le cas de Jean-Louis Bianco qui va devenir député, président de conseil général, maire. Hubert Védrine va devenir évidemment ministre des Affaires étrangères de Lionel Jospin. On peut penser à Claude Guéant qui a été ministre de l'Intérieur, etc., etc. La plupart d'entre eux deviennent, sont tentés par la politique alors même qu'ils étaient plutôt des grands commis de l'État.
Justement, vous venez de le citer, le secrétaire général qui a sans doute eu le plus de pouvoir, c'est Claude Guéant, pendant 2 ans et demi au début du mandat de Nicolas Sarkozy. Il était notamment chargé des missions spéciales, la libération des infirmières bulgares en Libye par exemple, un rôle nouveau qu'il a justifié devant vos caméras.
Pourquoi le secrétaire général, que ce soit à l'égard du colonel Kadhafi, à l'égard de Bachar al-Assad, à l'égard du roi d'Arabie Saoudite, à l'égard d'autres encore, est celui qui est choisi pour faire ses missions spéciales? C'est parce qu'il est le plus proche collaborateur du président et en quelque sorte son porte-parole. C'est lui qui traduit sa pensée, qui peut s'engager pour lui. À certains égards, il est même plus important que le ministre des Affaires étrangères, si vous voulez, compte tenu de cette relation personnelle.
C'est pas rien cette phrase, plus important que le ministre des Affaires étrangères, vous dit Claude Guéant, qu'on a vu alors, je me souviens, on le voyait à la radio, à la télévision, très très régulièrement. C'était un Premier ministre bis à l'époque.
Oui, et d'ailleurs, il a été une forme d'exception parmi les secrétaires généraux parce qu'il avait une mission qui dépassait très largement le cadre de ses prédécesseurs et même de ses successeurs, puisque aucun secrétaire général n'a été aussi exposé. Et d'ailleurs, ça lui a été reproché, notamment pour une autre raison, pas seulement le fait de parler dans les médias, mais le fait de se trouver en concurrence avec les ministres et particulièrement avec François Fillon, le Premier ministre de l'époque. Et donc, ça avait été un vrai problème, à tel point que ces secrétaires généraux, qui sont en général très réservés sur leurs collègues, essayant de respecter un peu la règle républicaine, là, se sont tous exprimés pour dire que ça, ils trouvaient qu'il y avait un problème dans le fait que le secrétaire général, homme non élu, conseiller de l'ombre, sorte dans la lumière. Et je crois que ça sera une parenthèse qui n'est pas prête de se réouvrir.
C'était à l'époque où François Fillon était qualifié parfois de collaborateur. Claude Guéant vous révèle une information dans votre film, les contreparties obtenues par la Libye pour la libération des infirmières bulgares, quelles sont-elles?
Et pour la première fois, il nous dit devant une caméra, puisqu'on s'en doutait, mais il ne l'avait jamais dit officiellement, que non seulement il y a une compensation d'un don à la Fondation Kadhafi par le biais du Qatar, mais surtout, il fait un lien direct entre la venue du colonel Kadhafi en France, comme une contrepartie de la libération des infirmières, alors que ça avait toujours été...
Nié.
Exactement. Ignoré.
Ça a été soit ignoré, soit passé sous silence, soit avec un déni assez frappant d'ailleurs,
absolument.
Je me souviens. Les secrétaires généraux également peuvent être les gardiens de la vie privée du président, sans forcément être au courant de tout. Exemple avec Jean-Luc Bianco, puis avec Hubert Védrine. Officiellement, il ne savait pas que François Mitterrand avait une fille, Mazarine, on en parlait tout à l'heure avec Hervé Gattegno. Le président ne leur avait jamais dit directement, ouvertement, mais ils l'ont vite compris et ils n'ont rien dit.
Quand je suis nommé secrétaire général de la présidence de la République en 1982, je ne connais pas l'existence de Mazarine Pinjot. J'étais dans son bureau, deux coups de téléphone, où il appelait manifestement Anne Pinjot, la mère de Mazarine, pour convenir d'un déjeuner ou d'un dîner. Je me retirais, il me faisait signe de rester. C'est une manière de dire, je sais que vous savez, je sais que vous ne direz rien. C'était un peu avant Noël, il me dit, au fait, j'y pense, là, les jeux électroniques que vous m'avez montré l'autre jour, est-ce que vous pensez que ça pourrait convenir à une petite fille?
Ça est arrivé que dans un ou deux voyages, il me demande d'aller acheter des jouets, en fait. Parce que j'ai un fils aîné qui a à peu près le même âge, vous voyez. Mais il ne m'a jamais rien dit. On se dit, oui, c'est sa vie, où est le problème? C'est pas mon sujet, quoi. On n'a pas à s'occuper de ça. Donc j'ai pas eu à organiser le secret, c'était autre chose, ça. Puis la vie de François Mitterrand était très compartimentée.
Où est le problème, dit Hubert Védrine, demande Hubert Védrine, le problème c'est quand même un sujet politique, non?
Mais bien sûr que c'est un sujet politique, et là il euphémise un peu sa responsabilité, et en fait le problème que ça a posé, on l'a bien vu à la mort de François Mitterrand lorsque cette fille est apparue, tout simplement les questions étaient de savoir qui la protégeait, avec quel argent, et ce secret finalement était-il légitime. Donc là on voit bien le rôle du secrétaire général qui est vraiment à l'intervalle entre la vie publique et la vie privée, on cite cet exemple de Mazarine, on pourrait citer aussi le fait que c'est Claude Guéant qui a organisé le mariage de Nicolas Sarkozy avec Carla Bruni à l'Élysée, ce qui révèle aussi pour la première fois dans le documentaire, ou encore le fait que c'était Frédéric Salabarou qui a dû couvrir l'hospitalisation de Jacques Chirac. Il y a toute une série d'épisodes qui montrent que vraiment ce secrétaire général, des fois, c'est un homme que le président voit plus souvent que sa propre compagne.
Ce qu'on perçoit dans l'extrait et qu'on voit aussi dans le documentaire, c'est le côté affectif de certains secrétaires généraux. Vous parlez de Frédéric Salabarou, ça allait plus loin puisqu'il était lié même d'une manière familiale avec Jacques Chirac.
Et c'est dans le cadre de sa mission qu'il s'est épris de la fille de Jacques Chirac, Claude Chirac, qu'il a épousé ensuite, devenant le gendre du président de la République. Donc ça, c'est vraiment une histoire qui montre en fait que quand Frédéric Salabarou parle de sa femme, évidemment, il en est très amoureux, mais il le fait aussi parce qu'il admire Jacques Chirac, qu'il a beaucoup d'admiration pour lui, qui travaillait avec lui, permettait justement d'aller dans son intimité, et évidemment, il a poursuivi cette course-là.
Vous-même qui êtes un bon connaisseur de la chose publique, qu'est-ce qui vous a justement marqué dans les témoignages de ces anciens secrétaires généraux? À quoi vous ne vous attendiez pas?
Je crois que je ne m'attendais pas au fait que ces gens aient une dimension aussi affective dans leur rapport, non seulement à la République, mais aussi au président de la République lui-même. Ce sont des gens qui sont vraiment des figures de grands commis de l'État, mais ce sont tous sauf des passe-murailles. Ce sont vraiment des gens qui ont un rapport passionné à leur mission, pour l'engagement public. Alors après, on appréciera diversement leur parcours, les uns et les autres. Mais en revanche, on peut dire que s'il y a une conscience de l'État, une conscience du service public, eh bien, ils représentent ce service de l'État, ce service public, et aussi le service de leur président. Et je crois que c'est cette double nature de leur fonction qui la rend passionnante.
Dans le mot secrétaire, il y a le mot secret. Comment avez-vous réussi à les convaincre? Est-ce que c'était difficile de les faire venir à visage découvert, témoigner de leur poste.
Ça n'a pas été facile. Alors, certains d'entre eux avaient déjà écrit un livre, comme Jean-Luc Bianco ou Pierre-René Lemas. Donc là, c'était plus facile parce qu'ils vous acceptaient d'en parler. Mmh. D'autres sont des hommes de secret. Je pense notamment à Hubert Védrine. Jean-Pierre Jouyet avait été un peu échaudé par des expériences avec les journalistes. Alors, j'ai dû lui dire que je n'étais pas journaliste, justement, ouais. Que ma démarche n'était pas celle d'un quelqu'un qui cherchait des scoops, ouais. Mais quelqu'un aussi qui fait un travail presque de recherche, de pédagogie, pour essayer d'expliquer aux Français comment ça fonctionne. Et à ce titre-là, je crois que ça les a séduits. Puis, au fur et à mesure, voyant que les uns venaient, les autres se sont sentis obligés de le faire.
Le problème de Jean-Pierre Jouyet, c'était le fameux déjeuner avec Sarkozy, où on dit, avec François Fillon, on disait qu'il fallait taper sur Sarkozy.
Exactement. Quand il était, semble-t-il, avoir déjeuné avec François Fillon, qui lui avait demandé d'accélérer les procédures contre Nicolas Sarkozy, il avait raconté cette conversation à deux journalistes du Monde, qu'il avait ensuite raconté publiquement. Il avait failli démissionner, et donc il était assez échaudé. Mais on a pu voir quand même qu'il a sorti un livre après le documentaire, je ne sais pas si c'est lié, L'envers du décor, qui parle beaucoup de son expérience et qui est assez passionnant aussi.
D'un mot, sont tous des hommes, il n'y a aucune femme secrétaire générale de l'Élysée. Comment vous l'expliquez ?
Je pense que c'est un archaïsme, évidemment. Et ils le reconnaissent d'ailleurs en partie. Ils considèrent que ça serait normal que ça soit une femme la prochaine. Mais c'est une époque aussi. Et donc, des adjoints.
Est-ce que le poste, à votre connaissance, a déjà été proposé à une femme qui l'a refusé ?
Pas à ma connaissance. Mais en revanche, je rappelle aussi qu'il y a les secrétaires généraux adjoints dont on ne parle pas. Certains d'entre eux assez célèbres, Emmanuel Macron, Jean Castex, ont été secrétaires généraux adjoints. Et là, il y a eu quelques femmes. Mais on peut souhaiter que la prochaine présidence de la République, que ce soit M. Macron ou un autre, puisse nommer une femme à ce poste.
Pour l'instant, il n'y a eu qu'une première ministre qui était. Je ne trouve plus son nom à l'instant. Edith Cresson.
Edith Cresson.
Merci beaucoup, Vincent Martini. Vous êtes l'auteur du documentaire L'homme du président. C'est à voir dimanche soir à 22h40 sur France 5 et c'est passionnant. Dans un instant, on va parler du combat contre Google, Apple, Facebook et Amazon. Autrement dit, les GAFA. Nous en parlons avec Pierre Louette, auteur du livre Des géants et des hommes. Et c'est également le PDG du groupe Les Échos, Le Parisien. À tout de suite. Bonjour Pierre Louette.
Bonjour.
Pierre Louette, vous êtes PDG du groupe Les Échos, Le Parisien. Vous êtes également à la tête de l'Alliance de la presse d'information générale. Pourquoi j'en parle ? Car vous dirigez les négociations sur les droits d'auteur avec les GAFA, en première ligne Google et Facebook, les fameux droits voisins. Et en marge de ce combat, car c'est un combat, vous publiez cet essai chez Robert Laffont. Ça s'appelle « Des géants et des hommes ». C'est sous-titré « Pour en finir avec l'emprise des GAFA sur nos vies ». Dans quelle mesure votre vie personnelle, je ne parle pas de votre activité journalistique, dans quelle mesure votre vie personnelle, notre vie personnelle, est-elle sous l'emprise des GAFA ?
Il faut réaliser une chose, en fait, c'est que depuis une dizaine d'années, progressivement, on a confié des pans entiers de nos vies aux GAFA. Par exemple, une des fonctions clés quand on vit connecté, comme nous tous, c'est la recherche. Bon, la recherche, c'est Google.
Oui.
93% des recherches, c'est Google.
Pourquoi c'est grave ?
Alors, on va venir aux raisons, mais déjà, on se rend compte de l'importance. C'est pour ça que ce sont des géants. Il faut réaliser juste à quel point ils sont prévalents dans nos vies. La conversation mondiale, elle se fait pour 3 milliards 300 millions de personnes sur Facebook. Donc, c'est important aussi.
Je vais poser la question différemment. Du temps où il y avait le monopole, on avait tous EDF, on n'avait pas l'impression que EDF avait une emprise sur nos vies.
Alors, c'est très intéressant parce que justement, les monopoles ont été brisés. Et dans toute l'histoire, quand il y a une situation de monopole qui se constitue, que ce soit dans la banque, dans le rail ou dans les télécoms aux États-Unis au 19e ou 20e siècle, et puis ensuite en Europe aussi, il y a un moment où les monopoles sont éclatés, il y a une ouverture à la concurrence. Dans les télécoms, on a dégroupé, on a laissé les concurrents entrer dans les installations de l'opérateur historique. Voilà. Donc en général, ça finit comme ça. Parce que le pire ennemi, disait l'économiste Bastiat du capitalisme et du libéralisme, le pire ennemi du libéralisme, c'est le monopole. Donc on ne peut pas vivre entièrement avec des monopoles parce que ça a des conséquences inattendues. Vous connaissez certainement l'importance économique de ces acteurs, dont il faut saluer la réussite, hein, au passage. Disons-le tout de suite, plutôt des bons produits, évidemment, sinon ça n'aurait pas
bien
marché
sûr.
Comme ça.
Si on est sur Google, c'est parce que ça marche mieux.
Exactement.
Que les précédents, qui étaient Quant ou Lycos ou d'autres, je me souviens,
exactement.
Ou Yahoo.
Exactement, vous vous souvenez très bien, Philippe, Lycos, Excite, bon, tout ça a disparu, quoi, parce que Google a été plutôt meilleur. Mais aujourd'hui, les GAFAM, hein, avec Microsoft en plus, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, c'est le PIB de la France et de l'Allemagne réunis. En termes de capitalisation boursière. Ils représentent le poids de deux pays considérables comme la France et l'Allemagne. Donc ce sont devenus des entreprises aussi grandes que des États. C'est pour ça que parfois je les appelle des supranationales. Mmh. Elles sont extrêmement puissantes et on le voit dans l'actualité récente. Même si on arrive parfois à conclure un accord avec eux, on y reviendra, et ça c'est important de dire, on peut arriver à des accords. Souvent, elles sont face à des États dans cette posture de dire, écoutez, la loi que vous avez, bon, est-ce qu'on est déjà en ordre avec cette loi-là ? Est-ce qu'on la veut vraiment ? On a ce débat quasiment de puissance à puissance.
Ce qui est très très étonnant, vous faites l'histoire des GAFA depuis la Silicon Valley. Apple a été créé par Steve Jobs dans un garage, comme Jeff Bezos, qui est l'homme le plus riche du monde, qui a fondé Amazon. Facebook, inventé en 2015 par un jeune geek qui n'avait pas de copains, On a vu ce que c'est devenu. Ils vivaient à la cool en t-shirt. Leur slogan de l'époque, c'était « Faire du monde un meilleur endroit, make the world a better place ». Des libertariens, tendance New Age, qui sont devenus les chantres du capitalisme mondial dérégulé, presque féodal. Que s'est-il passé entre ces deux photos ?
Il s'est passé qu'ils ont énormément grandi. Il s'est passé aussi que... Il y avait cette ambition, comme dirait Edgar Morin, générale, générique, généreuse, transformer le monde, en faire un meilleur endroit. Et puis, une entreprise de technologie comme Google est largement devenue une entreprise de publicité ensuite. Facebook aussi s'était créé pour en fait, rencontrer des filles sur le campus, semble-t-il.
Exactement.
C'est ça l'origine exacte et importante d'ailleurs de Zuckerberg. Et puis finalement, c'est devenu le lieu, l'agora du monde. Le lieu
J'ai
de la conversation
mal posé
mondiale.
Ma question. Où est passée la coolitude du début ? Qui étaient des gens justement qui se disaient ouverts et maintenant on les voit réclamer des monopoles et on les voit essayer de tuer leurs concurrents ou alors de les racheter pour les faire taire. Ce qui s'est passé par exemple avec WhatsApp racheté par Facebook.
Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont, comme on dit dans le monde des startups, ils ont scalé, ils sont devenus absolument énormes, ils sont devenus gigantesques. Donc ils ont créé toute une infrastructure autour d'eux, presque une technostructure, des gestionnaires, des gens qui... Peu à peu, on dit, on a là une machine à fabriquer comme une poule aux œufs d'or, ou une oie aux œufs d'or, dirait Masao Shison, enfin une machine à fabriquer de l'argent. Et puis c'est devenu des cotations extrêmement importantes, ce sont devenues des entreprises qui ont pris tous les attributs de très très grandes entreprises.
Oui, mais c'est pas ça qui fait de vous un méchant.
Non, simplement, ce qui s'est passé, c'est que le long du chemin, on a l'impression qu'elles ont un peu oublié leurs promesses généreuses du début. Elles sont devenues un peu trop cyniques à mes yeux. Moi, j'appelle de mes voeux le fait qu'ils reviennent un peu d'ailleurs à leur culture initiale. Et cyniques, pourquoi ? Parce qu'elles ont développé des mécaniques de nature à faire en sorte que de plus en plus de gens soient leurs clients. Bon, ça, après tout, c'est légitime quand on veut gagner des clients. Mais avec un peu, parfois, de dissimulation. C'est Madame Vestager qui est la patronne de la concurrence... Et la vice-présidente de la Commission européenne qui dit, quand on lit les conditions particulières d'utilisation des services qu'on utilise tous, on est quand même surpris de voir tout ce qu'on leur laisse. Regardez, cet exemple que je prends, c'est l'histoire de la data. On dit, les data, c'est la nouvelle monnaie du monde. Dans cette monnaie du monde, la data, les GAFA, ce sont les banques centrales. C'est-à-dire, ce sont eux qui gèrent le plus cette monnaie, toutes ces choses qu'on leur a données, sans parfois toujours s'en rendre compte. On leur a donné en échange de services qui sont bons, c'est vrai, mais on ne se rendait pas forcément compte de tout ce qu'on laissait.
Vous n'avez pas peur d'employer de grands mots, Pierre Louette. Vous dites ce qui se passe là constitue une atteinte majeure à la démocratie. À ce point, et de quelle manière ?
C'est ce qui s'est passé pour moi au fur et à mesure que je réfléchissais à ce bouquin depuis quelques années, d'ailleurs, chez Orange ou avant. C'est qu'on est passé d'un problème économique avec un problème de droit de la concurrence. On a souvent d'ailleurs pu gagner des manches contre eux sur le terrain de droit de la concurrence. On est passé de là, d'un problème économique, à un problème plutôt démocratique. On l'a vu avec l'élection de Trump, avec Facebook, les manipulations que certains ont voulu faire dans Facebook. On s'est rendu compte que quand on est aussi grand, on a des responsabilités à assumer. Et donc typiquement, on ne peut pas entièrement laisser la conversation du monde entre les mains d'une entreprise qui n'est pas entièrement équipé pour ça. Alors Facebook s'est doté d'une sorte de cour suprême aujourd'hui qui commence à rendre quelques avis, mais c'est tellement grand que c'est devenu presque une facilité essentielle, une infrastructure essentielle dans le monde. Et donc il faut que ça soit régulé par des instances indépendantes, c'est ce que j'appelle de mes voeux.
Ce qui est très intéressant dans ce livre des gens et des hommes, c'est qu'il y a ce constat, mais il y a aussi des solutions. On en parle avec vous, Pierre Louette, Culture Média continue. En compagnie de Pierre Louette, PDG du groupe Les Écoles Parisiens, mais surtout à la tête de l'Alliance de la Presse d'Information Générale. Pourquoi j'en parle ? Parce que c'est vous qui dirigez les négociations sur les droits d'auteur, les droits voisins avec les GAFA, et vous publiez cet essai chez Robert Laffont, Des géants et des hommes. C'est sous-titré pour en finir avec l'emprise des GAFA sur nos vies. Vous avez eu le temps de les voir de l'intérieur. Est-ce que le climat n'est pas en train de changer ? On parlait des solutions qu'il pouvait y avoir. Déjà, il y a par exemple cette vague de gens qui se désabonnent, et c'est parti des États-Unis, qui se désabonnent de WhatsApp.
Oui, je pense que le climat évolue. En fait,
il faut le dire parce que WhatsApp appartient à Facebook,
voilà,
et Facebook a demandé d'accepter une nouvelle condition qui est celle-ci, que nos données personnelles, plutôt notre carnet d'adresse, passent sur Facebook.
Voilà. Facebook a racheté WhatsApp il y a déjà quelques années et ensuite Instagram. Donc Facebook s'est constitué peu à peu un ensemble de sites sociaux dans lesquels on passe beaucoup de temps. Bon, les conditions changent. Le climat change, Philippe, vous avez raison de le dire. On a réalisé peu à peu que cette place qu'avait... ces acteurs dans nos vies étaient énormes et que les conditions n'étaient pas toujours très transparentes. Peu à peu, il y a eu beaucoup de procès qui ont été menés par des États, par des autorités de concurrence. Et encore tout récemment, je crois que ce sont 48 procureurs, enfin ministres de la justice des États américains qui ont dit « on va regarder comment peut-être démanteler Facebook, en fait, faire en sorte qu'on revienne en arrière sur les acquisitions qui ont été menées ».
Ils vont regarder comment démanteler ou ils vont démanteler ?
Ah, ça, je ne sais pas. C'est l'histoire qui va s'écrire. Mais en tout cas, que la question puisse être posée, c'est assez nouveau. Et vous avez entièrement raison, le climat a changé. Quelqu'un me disait, très peu de temps, bon, les GAFAM, on sait qu'il y a un peu un problème, on ne sait pas très bien quel est le problème. Mais en même temps, on s'en sert tout le temps. Mmh. Je pense que peu à peu, ce à quoi, d'ailleurs, j'ai essayé de contribuer avec cet ouvrage, c'est qu'il faut clarifier ce débat. Il faut bien prendre conscience des avantages qu'ils nous ont donnés, mais aussi de tout ce qu'on leur a laissé, et puis du fait qu'il faut certainement réguler, mettre sous le harnais un certain nombre d'activités.
Aux États-Unis, on est un petit peu à front renversé. Je me souviens quand l'informatique est arrivée, quand Internet est arrivé, c'était plutôt un truc de démocrate. Et maintenant, c'est l'inverse, c'est les démocrates qui sont contre les GAFA, qu'ils accusent à raison ou à tort d'avoir facilité l'élection de Trump il y a 4 ans.
Voilà, c'est quasiment devenu un des seuls moments de consensus américain. C'est que les républicains avaient commencé à les attaquer et il semble que les démocrates souhaitent aussi, parce que c'est très américain. Encore une fois, les Américains ont démantelé les monopoles dans l'histoire.
Ça va changer quelque chose, l'élection de Biden ? Sur ce sujet-là, précisément.
J'ai l'impression que sur ce sujet-là, il y a apparemment une certaine continuité. Vous l'avez dit, les démocrates étaient plutôt soutenus par les GAFA, en fait, dans le passé, et donc les soutenaient. Et je raconte dans le bouquin, moi j'ai été parfois interpellé chez Orange en disant « n'allez pas trop loin, il y aura des mesures de représailles ». Mais là, on a l'impression que toute l'Amérique se rend compte que voilà, beaucoup de choses ont été confiées, il faut savoir où sont nos données, il faut savoir comment elles sont gérées.
On n'a pas le temps d'en parler ici, mais vous racontez des choses tellement cyniques quand vous étiez chez Orange, quand vous parlez avec des gens des GAFA qui vous disent « où vous installez les tuyaux ». Donc vous payez les émetteurs, les installations, et nous on gagne de l'argent avec. Voilà. Nous ça ne va rien nous coûter, on va en profiter. Il faudrait aussi que l'Europe s'organise. On leur reproche de ne pas payer d'impôts, mais quand le centre d'appel Apple s'installe en Irlande, paye moins d'impôts, il y en a qui sont en Hollande ou au Luxembourg, c'est totalement légal.
Mais la grande nouvelle c'est que l'Europe s'est drôlement réveillée. Moi je rappelle aussi, il a fallu 16 ans après la naissance de Google, et il a fallu attendre 16 ans pour qu'il y ait un premier sommet européen consacré au numérique. Il y avait des sommets sur plein de sujets intéressants, mais le numérique était devenu énorme, il n'y avait pas de sommet. Il n'y avait pas de réunion. Il y en a eu. Il faut dire que nos hommes politiques, souvent, étaient un peu en retard. Ils n'étaient pas en pointe sur ces sujets-là. La nouvelle génération est beaucoup plus avancée. Et puis, en Europe, ça a beaucoup changé. Avec Mme Vestager, avec Thierry Breton, qui déploie une énergie incroyable pour lancer deux projets de directives, deux projets de loi en fait, européennes, pour mieux gérer nos données et donner une forme de statut à ces gens qu'on appelle les portiers d'Internet. Ils sont les gardiens de l'entrée, peut-être les gardiens de la sortie aussi, et donc ce rôle-là doit être défini.
Vous proposez des solutions à plus court terme, Pierre Louette. Il y en a beaucoup, il y en a 19. La plus étonnante, elle est page 267. Vous voulez concevoir une sorte de serment d'Hippocrate, comme le serment que prononcent tous les médecins, mais là prononcé par tous les ingénieurs en informatique. Expliquez.
Oui, alors c'est une image, mais ça serait pour se dire... partir de cette réalité que le code est devenu une chose très importante dans nos vies. Ceux qui programment, ceux qui écrivent du code. Certains qui vont très loin, d'ailleurs, comme Laurence Lessig, le code, c'est la loi. C'est nous qui fabriquons la loi. Je n'irai pas jusque-là, mais c'est très important. Et donc, il faut effectivement que ces ingénieurs qui écrivent ces pages de code qui vont transformer la façon dont sont gérées nos données, dont sont gérées nos relations, en fait, les uns avec les autres, dont est géré aussi notre accès à l'information, ce qui est très important pour nous, eh bien, il faudrait certainement qu'ils soient responsabilisés. Ouais. J'évoque aussi le fait qu'on...
Attendez, je veux dire quand même ce que je veux dire. Les signataires promettraient de se souvenir que la cohérence, la franchise et la compassion doivent prendre le pas sur la précision algorithmique. Que les données ne sont pas de simples chiffres, mais représentent des gens et des situations vraies.
Mais je prends un exemple pour être plus explicite. Il s'est développé depuis très longtemps, et au début d'ailleurs on le voyait avec beaucoup d'intérêt, ce qu'on appelle le marketing filtratif collaboratif. C'est un peu compliqué comme nom, mais c'est de dire vous avez acheté ce livre, d'autres que vous ont acheté d'autres livres, vous pourrez les acheter. Vous avez aimé ce produit, vous pourriez aimer. Et en fait, on croise toutes les données. Bon. Mais il y a aussi un effet dans la conversation mondiale, qui est que peu à peu on vous enferme dans des thématiques. Vous avez aimé cette thématique, vous aurez plus de propositions de cette thématique encore plus profonde, encore plus verticale et souvent encore plus radicale. Ça, pour moi, c'est très mauvais du point de vue démocratique. C'est-à-dire que ça vous enferme au lieu de vous réunir. Ça devient très vertical au lieu d'être horizontal comme la conversation mondiale doit l'être. Donc pour ça, s'il y a autant d'importance dans le code, il faut certainement qu'il y ait une forme de statut.
Un mot, je veux revenir sur le feuilleton du bras de fer entre Google et les éditeurs de presse. Les fameux droits voisins, rappel des faits, il y a une directive européenne de mars 2019 qui exigeait que Google reversait des droits d'auteur aux journaux. Google n'était pas d'accord, disant que comme c'était gratuit sur Internet, ça allait être gratuit chez eux. Le feuilleton a quasiment duré 2 ans. Finalement, vous êtes parvenu à un accord. Que dit cet accord en substance ?
En substance, c'est un accord cadre qui a été négocié par l'Alliance et par moi, pour une partie du temps, et des collègues dans la dernière période, hein, il faut le souligner. Et donc, on a trouvé une forme d'accord cadre entre Google et nous, qui a 3 points principalement. Google reconnaît l'existence de cette loi. Google reconnaît qu'il doit y avoir un versement universel au titre d'information politique générale, d'une rémunération. Et c'est c'est universel, c'est-à-dire que ça bénéficiera au plus petit titre de cette famille. Donc ça n'est pas qu'elle au profit des plus gros, c'est valable pour tout le monde.
Et la somme en France porterait sur combien ?
Ça porterait sur une somme qui est raisonnable, intéressante.
C'est quoi, des dizaines de millions, des centaines de millions, du milliard ?
Alors, c'est une somme dont le montant est couvert par le secret des affaires, donc on ne peut pas
en parler. On parlait du milliard pour l'Australie et Google a menacé de changer ses modalités en Australie justement à cause de ça.
Voilà, on a vu un bras de fer entre État et Google qui est en train d'évoluer peut-être là apparemment. Bon. Google revient à la table des négociations.
Mais la somme est secrète, vous la connaissez, vous n'avez pas le droit de le dire.
Je n'ai pas le droit de le dire, non.
Merci beaucoup, Pierre Louette. Je le rappelle, cet ouvrage des géants et des hommes pour en finir avec l'emprise des GAFA sur nos vies, c'est chez Robert Laffont. Culture Média continue, il y aura le rappel des titres de 10h. Et puis on va recevoir Eva Rock pour son zapping du lendemain entre deux mondes en mariage bancal et naissance dans la nature. Et puis Bertrand Chamerois pour son écran de veille. Il était devant Top Chef hier, il a dû passer la nuit. Notre invité, Kad Merad, à l'occasion de sa pièce Ami qui reprend, mais en direct, du théâtre à la télé, sera à la Michaudière. Et puis dans les indispensables, le retour d'un groupe de rock mythique et l'art rendu accessible dans les vidéos. Culture Média continue, à tout de suite.
Europe 1, Culture Média.